Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc Roussillon. En ce beau mois d'octobre, la réalisation de cette émission revient à Radio Aviva, qui se fait ainsi le porte-voix des meilleures radios de la région. Au sommaire de ce Carnet de Région, du beau monde, de la politique, de la boxe et du grand art. Radio Gris Ouverte nous tire vers le fond du problème de l'exploitation du gaz de schiste et de la fracturation hydraulique. Radio Pays d'Hérault a tendu son micro à la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq qui nous parlera de la taxation un peu lourde du vin français par nos amis chinois. Radio Escapade nous fera découvrir un phénomène en plein essor, celui de l'habitat participatif, sujet d'actualité puisque les 19 et 20 octobre se déroulent les journées nationales de l'habitat participatif. Vous ne connaissez pas encore cette forme d'habitat ? Eh bien nous en aurons un bel exemple trouvé du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Radio Lodève a rencontré les boxeurs du Sirion de Clermont-Lérault qui s'envolent de façon imminente vers une belle aventure en Algérie. Ensuite, retour à la politique avec 48FM qui a recueilli le pronostic de Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines municipales. Et si vous ne la connaissiez pas, RCF Maguelone vous propose de découvrir une autre facette de Diderot, le philosophe des Lumières qui était aussi critique d'art. Le musée Fabre de Montpellier présente en ce moment une exposition qui lui est consacrée. Pour finir, FM Plus nous éclaire sur l'économie circulaire que représente désormais l'éco-emballage. Carnet de région, c'est parti. Si vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a réaffirmé la validité de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique pour explorer et exploiter les gaz de schiste, reste une ambiguïté, car cette victoire masque l'équivoque du second article de cette même loi qui laisse entendre que si l'exploitation est interdite aux pétroliers titulaires de permis, ceux-ci peuvent par contre procéder à des travaux de recherche, un danger dénoncé par le député Europe Écologie Les Verts du Gard, Christophe Cavard.
Le Conseil constitutionnel a donné un message clair aux multinationales et aux pétroliers qui ont cru bon d'attaquer la loi de 2011 qui interdit l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste par fracturation hydraulique. Et le message a été très clair au niveau de la lecture constitutionnelle, ça a été de dire non, cette loi est en bonne et due forme et donc cette loi s'appliquera sur le sol français tant que effectivement elle ne sera pas défaite éventuellement par une autre loi, donc elle existe et elle nous protège. Donc c'était une étape très importante puisque c'est vrai que les pétroliers aujourd'hui attaquent en justice de partout, ils ont attaqué sur la question de la loi au niveau du Conseil constitutionnel, mais ils saisissent aussi beaucoup de tribunaux administratifs dans beaucoup de territoires, parce que le problème de la loi de 2011 par contre, c'est qu'elle a été faite à la réponse de la mobilisation citoyenne, donc elle a été faite dans un moment un peu d'émotion, assez vite, et soyons honnêtes, la loi elle-même a un certain nombre de ses limites.
Alors subsistent certaines ambiguïtés.
Exactement, notamment sur l'article 2, c'est souvent rappelé que la loi laisserait entendre, dans l'interprétation en tout cas du côté des pétroliers, la possibilité d'utiliser leur permis au moins pour de la recherche. Or, on sait tous que si on fait de la recherche, si on investit, la recherche c'est un coût, c'est pas pour simplement faire avancer le contenu de la recherche, mais c'est bien évidemment pour passer à l'étape d'après qui serait l'exploitation. Et on s'inquiète un peu parce que même le président de la République, il s'est réjoui du choix du Conseil constitutionnel, a réouvert la porte de ce débat en disant une phrase très claire, en disant en gros on interdit la fracturation hydraulique mais on n'interdit pas la recherche. C'est vrai que pour un certain nombre d'entre nous, on dit attention, danger. Nous, on est sur le fait que les permis soient abrogés totalement et qu'il n'y ait jamais d'exploitation de gaz de schiste dans notre pays au vu des dangers pour la santé, au vu des dangers environnementaux évidents pour les personnes qui seraient concernées par les territoires où il pourrait y avoir des puits. Donc on dit tout simplement, nous, il faut aller plus loin. On a la loi de 2011, on est tranquille sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres techniques qui existent, donc tant mieux, mais nous devons réarmer le cadre législatif et donc nous, ce que nous proposons, c'est qu'on complète la loi de 2011 plus tranquillement, dans un temps plus apaisé puisqu'il y a moins d'urgence, sur le fait qu'on réponde définitivement à ce que demandent la plupart des citoyens, c'est qu'ils ne puissent pas avoir ni de recherche, ni d'exploration, ni d'exploitation de gaz de schiste.
Second danger qui menace cette validation par le Conseil constitutionnel de l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste en France, les négociations de libre-échange actuellement menées entre l'Europe et les États-Unis. Des négociations opaques qui pourraient, selon l'eurodéputé verte Michel Rivasi, remettre en cause la loi des États en matière de souveraineté énergétique, d'autant que se profilent à l'horizon 2014 les élections européennes.
Ces accords de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, on a un exemple typique.
sur des accords de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les pétroliers ont commencé à attaquer le Canada parce qu'au Canada, le Québec a décidé de faire un moratoire sur les gaz de schiste. Et Pine Oil, qui est la compagnie, dit « Ah mais attendez, c'est un préjudice sur les investissements qu'on aurait pu faire au Québec. Et donc, on vous demande 250 millions de dollars de dommages et intérêts. » Et à l'intérieur de ces accords de libre-échange, vous avez un tribunal. Alors, il est fait par qui ? Donc des gens qui sont jugés partis, qui va décider si oui ou non il y a un préjudice. Et nous, ce qu'on craint, c'est que s'il y a un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, eh bien, les pétroliers vont dire « Mais nous, on est en désaccord avec la loi française ou la loi bulgare, par exemple, qui interdit la fracturation hydraulique. On va vous demander des indemnités, justement, parce qu'on ne peut pas investir dans votre pays. » Or, ce sont des accords qui permettent l'investissement des industriels. Et je crois que les politiques ne sont pas suffisamment alertées des dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Moi, je ne veux absolument pas que ces accords puissent être actés avant les prochaines législatives, parce que ça va être en mai 2014, parce qu'il y a quand même le commissaire de Gucht qui est très pressé pour que ça soit signé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on alerte chacun à notre niveau les États membres pour dire « attention ». Parce qu'on va perdre à la fois sur les gaz de schiste, mais on va perdre aussi sur les OGM, on va perdre, vous voyez, sur toutes les normes qui sont plus draconiennes que celles des États-Unis. Or, on nous fait chaque fois miroiter en disant « mais ça va augmenter la croissance de nos entreprises ». Oui, mais à quel prix ? Si c'est contre le consommateur européen, si c'est contre la protection, vous voyez, qu'on a pu... On a mis des années à l'avoir, cette protection. Donc ça va être un des enjeux très importants des élections européennes. Et il faut une transparence totale sur ces accords. On n'a même pas accès à la nature des accords. C'est un petit groupe, une oligarchie qui veut signer ces accords sans que le consommateur, sans que le citoyen soit informé. C'est ça le scandale. Vous savez, on nous trompe toujours par l'opacité. Nous, là, un des enjeux des élections, ça va être qu'on nous garantisse d'avoir accès. Et c'est nous qui allons nous approprier ça. Et pour savoir si, oui ou non, on va signer ces accords. Mais vu l'état des choses, on va plus perdre que gagner. Et qui va en profiter ? Encore une fois, c'est les grosses entreprises, mais ce n'est pas les gens.
Et c'est ce samedi 19 octobre que se tient la journée internationale de lutte contre le fracking. En bon français, la fracturation hydraulique. Et proche de chez nous, en plus, à Béziers et Montélimar. Un reportage réalisé par Yves de Fago de Radio Gris Ouverte pour le Carnet de Région.
Carnet de Région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Retour sur la récente visite de la ministre du Commerce extérieur dans l'Hérault. Nicole Bricq s'est notamment intéressée aux activités de l'entreprise de négoce en vin Advini, connue sous le nom de Jean-Jean à Saint-Félix-de-l'Odèze, près de Clermont-l'Hérault. Un géant du vin en France, quatrième opérateur national, 650 salariés dans le monde, dont 220 dans l'Hérault, 80 millions de bouteilles vendues par an, un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros. Un des sujets évoqués avec la ministre, l'export de vin vers la Chine en chute libre. On écoute Antoine Leccia, PDG d'Advini.
Je vous dirais, là, on a parlé essentiellement, enfin en tout cas d'un problème critique aujourd'hui, qui est le problème de la Chine, puisque le marché, on va dire, est plutôt à l'arrêt, suite à ce problème de panneaux photovoltaïques et des rétorsions qui sont prises par la Chine sur les vins. Et il faut savoir que les vins qui sont importés aujourd'hui en Chine étaient essentiellement des vins français, pour plus de 50% du marché. Donc on avait de belles parts de marché. C'est le dernier pays où on a ces parts de marché, le dernier, où on était véritablement dominant, et on est en train de perdre justement cette prédominance. Donc c'est dommage, on est en train de laisser la place à des vins chiliens, à des vins australiens, et pour uniquement un problème d'entente entre les États. Donc nous, quand on est petite entreprise, producteur en France, ce sont probablement des problèmes qui nous dépassent, et globaux, mais c'est nous qui ont payé aujourd'hui les pots cassés, donc c'est embêtant. Quoi. Il fallait vraiment passer ce message.
Ouais. Surtout que vous nous disiez que vous aviez une marge de progression en termes de vente de vin en Chine.
Ah oui, le marché explose. Même s'il y a un coup d'arrêt lié aux produits très chers et à l'arrivée du nouveau gouvernement, mais globalement, la consommation du vin ne fait que démarrer en Chine. On est sur des bases d'un litre et demi par habitant et par an. Donc c'est très faible. Beaucoup de régions aujourd'hui ne consomment pas de vin et avec leur développement, petit à petit s'y mettent. Ils boivent du café et ils mangent des glaces à Gendas, donc ils boiront du vin. Donc il faut être présent et le problème c'est que ces parts de marché, ce sont d'autres qui vont les prendre s'il y a des mesures de rétention qui sont prises, comme des taxes très élevées. Donc c'est vraiment un problème crucial hein, de se couper l'arbre sous les pieds dans un pays qui sera un pays qui peut tirer nos exportations pour les 10 ans à venir.
La Chine taxe le vin français à 48% depuis que l'UE a décidé au printemps dernier la taxation sur l'import des panneaux photovoltaïques en provenance de Chine à 47%. Alors, quel rôle peut avoir la ministre française du Commerce extérieur dans cette discorde ? La réponse de Nicole Bric.
Mon travail, c'est de reposer le problème à la Commission européenne. Je le ferai auprès du commissaire. Je l'ai fait dès le mois de juillet. J'ai reçu la Fédération du vin début du mois de septembre. Et je leur ai dit que les pouvoirs publics français étaient à leur côté. Et lors du prochain Conseil des ministres du Commerce extérieur du 18 octobre, je reposerai la question, puisque des mesures provisoires ont été prises et qu'elles ne seront valables qu'un an à l'encontre de la Chine. Donc les vins ne doivent pas être pris en otage par nos partenaires chinois.
Nicole Bric, ministre du Commerce extérieur, et c'était un sujet d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La crise du logement sévit un peu partout en France. Augmentation des loyers, baisse des aides au logement, difficulté pour obtenir un prêt auprès des banques. Bref, il est de plus en plus difficile de trouver de quoi se loger. Face à ce constat, de nouvelles pratiques voient le jour, comme l'habitat participatif. À Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, un projet de ce type a commencé à germer dans la tête d'un groupe de personnes. Ils se sont fait aider par une société montpelliéraine, Toit des Choix, pour le côté élaboration et gestion du dossier. À l'occasion des Journées nationales de l'habitat participatif, le groupe qui s'occupe de ce projet va accueillir tous les curieux pour les renseigner. Sophie Tabourel fait partie du projet depuis le début. Elle en explique les aspects positifs à Rémi Goujon pour Radio Escapade.
L'habitat participatif, ça invite les gens qui s'impliquent à participer à tous les aspects du projet. À partir de sa conception, en partant de zéro, là on a la chance d'avoir un terrain et une maison. Parfois, ça peut être un groupe qui se constitue et qui part à la recherche d'un lieu. Là, on a déjà le lieu, puisque les propriétaires nous l'ont en fait proposé. On proposait, dans une réunion publique d'ailleurs, qui a eu lieu en décembre dernier à la salle polyvalente de Saint-Hippolyte. Et donc, depuis, on a fait effectivement des ateliers à thème. Le projet, en fait, permet d'envisager à peu près entre 25 et 30 unités. Je dis unités parce que ça peut être aussi bien des logements que des locaux d'activité professionnelle. Et donc, pour l'instant, on en est à peu près à la moitié du potentiel en termes d'adhérents. Et donc il reste des places et donc le groupe qui existe travaille en différents sous-groupes selon évidemment toutes les responsabilités, les tâches qu'il y a à faire, que ce soit dans le domaine de la programmation architecturale. Il y a un groupe de travail qui s'occupe de tout ce qui est pilotage des différentes procédures. Un groupe sur la communication extérieure. Et certainement, oui, le groupe sur les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire une charte de convivialité à l'intérieur du groupe. Un aspect qui est très important, c'est que déjà le fait d'être concepteur du projet, ça fait que du coup on évite des intermédiaires coûteux. Là, en fait, l'idée même qui est commune dans ces différents projets dans toute la France et même enfin partout où ça existe, hein, que ce soit en Europe du Nord, c'est beaucoup plus répandu hein, qu'en France, c'est l'idée d'une coopérative d'habitants. Qui est donc responsable depuis la conception et puis qui s'occupe ensuite de la gestion au quotidien de l'habitat. Donc on a la chance d'avoir ce terrain qui est juste en bord de ville Avec la grande maison à rénover, il y a quand même 600 mètres carrés d'espace où on peut tout imaginer, hein, puisque bon, c'est une maison qui est habitable tout de suite, mais vétuste. Donc il y a des caves, il y a des grandes chambres, il y a des sanitaires, il y a un étage avec une immense magnanerie. Donc tout est possible, tout est envisageable. Je veux dire, si on fait un brainstorming, on sortira avec, je sais pas, une dizaine d'idées sympathiques. Et c'est aussi un des intérêts du projet, c'est que tout est à faire. Et on a un potentiel existant qui est quand même très intéressant.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
8 boxeurs du club du Sirion de Clermont-l'Hérault partent ce week-end en Algérie, à Oran très exactement, dans le cadre d'une semaine d'échange qui s'achèvera le 24 octobre par la participation à un gala de full contact. À l'origine du projet, le président du Sirion, Nadir Ketab.
Ce projet voilà, est né à partir d'un voyage que j'ai effectué cette année au mois de mars et où j'ai pu m'entraîner au sein d'un club à Moustaganem, donc là où mes parents ont une maison. Et puis j'ai trouvé donc, voilà, des gens passionnés, des gens tout à fait accueillants. Et j'ai trouvé aussi une Algérie que je n'avais pas vue depuis 25 ans. Donc en revenant, j'ai rencontré Moustapha, qui est un ami bien entendu, et qui s'est entraîné très souvent au club à Clermont-l'Hérault. Et c'est naturellement que je lui ai proposé s'il avait la possibilité voilà, de mettre en place un échange. Au départ, c'était un stage à Oran qui est quand même la deuxième ville d'Algérie. Et ce stage donc, a eu un retour positif de la part des boxeurs qui sont aussi des personnes qui s'impliquent au sein du club. Et on a avancé dans le projet et au départ, donc, ça devait être un stage, un échange donc, avec une visite, des visites culturelles et les entraînements avec d'autres boxeurs algériens. Et finalement, donc, la Ligue oranaise de kickboxing a été séduite par ce projet.
Et ce qui ne devait être qu'un stage de quelques jours au départ s'est transformé en un véritable échange culturel et sportif grâce à Moustapha Ben Ghelal, lui aussi impliqué dans ce projet.
Franchement, j'étais très content. J'ai contacté directement, j'ai un ami à moi qui a un club à Oran, un grand club, qui s'appelle Mouahidine. Et je l'ai contacté, il était très intéressé. Lui, en même temps, c'était un membre de la Ligue d'Oran. Ils ont pris au sérieux ce projet-là. Et maintenant, c'est la Ligue qui est en partenariat avec le club senior de Clermont-l'Hérault pour faire un grand gala. C'est dans une grande salle à Oran, Paris Sportif d'Oran, c'est connu. Et maintenant, ils sont en plein programmation. Là, ils ont programmé la semaine qu'ils vont passer là-bas à Oran. Ça veut dire les visites, des échanges sportifs, culturels et tout.
Donc là, on est 8 plus 3 accompagnateurs. Et donc 8 boxeurs qui s'entraînent. Hein, parce qu'on va être aussi les représentants de notre club, mais aussi on va être les représentants de Clermont-l'Hérault. Et aussi, on va être les représentants quelque part aussi de la France.
De la France.
Il y a une émulation, ils sont très contents de nous accueillir. Et puis surtout, ils se mobilisent justement pour que cette semaine et le jeudi 24 pour le gala, ce soit une fête, une grande fête sportive. Et à travers ce projet aussi, c'est une manière de dire voilà, ben, c'est aussi mes racines, parce que voilà, c'est mes racines, je suis fier de mes racines algériennes, et de faire partager aussi à tous les membres de la délégation ce beau pays, quoi, leur faire partager justement des moments qui vont être, j'imagine, très 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 forts. Et dans la continuité, ce serait vraiment de les accueillir à mon tour, à Clermont-l'Hérault, pour aussi leur faire partager mon pays, finalement, la France, et par là même, donc, créer un événement sportif, justement, pour que puisse y avoir un retour de ce qui va débuter là, maintenant. Voilà.
C'était un sujet réalisé par Alain Mendez de Radio Lodev.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Jean-Luc Mélenchon, député européen de la circonscription Grand Sud qui regroupe l'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées, était en Lozère ce mercredi pour mener de front la campagne aux prochaines élections européennes et apporter son soutien à la liste Front de Gauche de la Lozère pour les municipales. Car ce que craint avant tout le coprésident du Parti de Gauche et porte-parole du Front de Gauche est l'abstention, c'est ce qu'il a indiqué à Ludovic Terol de 48FM.
Mais c'est pas que je la crains, c'est que je suis sûr qu'elle aura lieu. Les municipales aussi, il y aura une énorme abstention. Et il y aura deux choses. Une énorme abstention, d'abord très forte à gauche, une abstention de déception, de dégoût, de démoralisation et aussi de résignation. Et puis une abstention qui sera une espèce d'insurrection civique froide. Les gens disant, allez tous vous faire voir, on ne croit pas à votre truc, ça ne marche pas, vous nous mentez, on ne se déplacera même pas. Et puis en même temps, vous aurez une très bonne mobilisation du Front National, de la droite classique, tout ça c'est un peu la même tambouille, parce que c'est l'opposition de droite au gouvernement. Donc eux, ils vont bien se mobiliser, comme ça a été le cas à Brignoles. Voilà, alors toute notre tâche à nous, le Front de Gauche, est de bien mobiliser, de faire d'une pierre deux coups. Bien mobiliser les nôtres, donc il faut être là. Faut pas disparaître. À une élection, je disparais, à la suivante, je réapparais, puis je redisparais, suivant la tambouille qu'on a mis à cuire. Hein. Non, il faut que les gens se disent, ah ben ceux-là, mon vieux, ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent, et dans tous les cas, ils tiennent le même discours. Donc il faut être là, aux élections municipales, en liste autonome au premier tour, et aux élections européennes, en liste Front de Gauche. Et si on peut, évidemment, être un peu plus nombreux, le but, c'est pas de valoriser notre étiquette, notre parti, c'est de mettre en mouvement, ensemble, tous ceux qui partagent en gros l'idée à bas l'austérité, vive la solidarité et la rupture écologique du modèle productif. Voilà, ça c'est la base. Après, tout ça, comment on l'arrange d'une élection à l'autre, c'est différent. Et il y a un objectif très politique, c'est pas faire prospérer la boutique de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. L'objectif, il est un, de renverser la table de l'Europe, parce que la cause de nos malheurs est dans cette organisation particulière de l'Union européenne, premièrement, et deuxièmement, passer devant les socialistes. Parce qu'une fois qu'on passe devant, bah, le septennat, il change de nature. Voilà. Parce que là, il n'a pas compris, François Hollande, qu'il a été élu avec les voix du Front de Gauche. Ou en tout cas, il fait comme si ça n'existait pas. Bon, il va lui en cuire, vous voyez déjà où il en est. Donc les Français, et ceux qui sont de gauche, hein, je m'adresse plus spécialement à eux, ou à ceux qui sont désorientés, désemparés, parce qu'aujourd'hui, gauche et droite, c'est des concepts qui ont quand même pris un drôle de coup dans le museau. Bon, eh bien, les gens qui sont désorientés, désemparés, qui se disent, bah tiens, après tout... ce que ces gens-là disent, bah, ça tient debout. Voilà. Ils peuvent changer la donne.
Et par ailleurs, lors de sa visite, Jean-Luc Mélenchon a rencontré également les opposants au gaz de schiste et a tenu une réunion publique qui a rassemblé plus de 300 personnes.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
On connaît Diderot, le philosophe des Lumières, Diderot, l'auteur de l'encyclopédie, mais connaissez-vous Diderot, le critique d'art ? À l'occasion des 300 ans de sa naissance, le musée Fabre de Montpellier lui consacre une exposition intitulée « Le goût de Diderot », près de 80 peintures, sculptures qu'il a vues et commentées en visitant les salons et les expositions officielles organisées tous les deux ans au musée du Louvre à Paris, des œuvres de ses contemporains comme Glaise, Chardin, Falconet, David, des œuvres qu'il a adorées ou détestées avec toujours une certaine exigence, lui qui n'était pourtant pas peintre. Olivier, l'un des commissaires de cette exposition, nous en parle.
À force de faire les salons, il a côtoyé plein d'artistes, Pigalle, Falconet, le peintre comme Chardin, qui ont été ses amis, qui lui ont enseigné des trucs. C'est vrai qu'au fur et à mesure que les salons se font, on sent qu'il prend de plus en plus en compte le savoir-faire technique. Ce côté littéraire, au début, il apprécie les œuvres par le côté littéraire, poésie ou vérité, et le temps passe, il prend en compte le savoir-faire, la technique, ce qu'il appelle en fait la magie, qui est un terme d'atelier pour qualifier le savoir-faire technique des artistes. Mais ça vient plus tard, c'est pour ça que dans l'exposition, on commence par la poésie, la vérité, puis la poésie, et on finit par la magie. C'est ce qu'il le comprend un peu plus tard. Et finalement, il se rend compte qu'on a beau avoir des belles idées, le sens de l'idéal, le sens de la vérité, être illusionniste, mais si on n'a pas le savoir-faire qui transcende tout ça, on ne fera pas un grand chef-d'œuvre, en peinture ou en sculpture. Et il est très difficile, c'est vrai. Après tout, il faut qu'il justifie son travail, si vous voulez. Donc il travaille pour son ami le baron Grimm, qui a créé la revue La Correspondance Littéraire, manuscrite, qui est payée fort cher par les abonnés. Donc ces gens-là qui ne vont jamais à Paris ont besoin de savoir ce qui se passe à Paris, qui est la capitale culturelle de l'Europe. Et à côté des commentaires sur les parutions littéraires ou du théâtre, il y a donc le salon. Et donc Diderot décrit des œuvres que les gens ne voient pas, hein, les abonnés ne les voient pas, je ne sais pas les voir, donc il est très descriptif. Et en fait, il faut qu'il justifie un peu aussi, si vous voulez, ce qu'il écrit. Donc c'est vrai qu'il fait un sort à chaque œuvre. Parfois, il est extrêmement dur, il parle de façon, on n'a qu'à mettre ça à la foire, au Pont Neuf, pas peine de montrer ça au salon. Ou alors, au contraire, il est très dithyrambique, et puis il essaie de montrer quel peut être son apport, lui, à l'art. Parfois, donc il se met à dire, voilà, mais moi, je retraitais ce sujet différemment. Même sujet, j'aurais traité comme ça. Voilà.
Des propos recueillis par Maud de Bourquenay de RCF Maglone Hérault. Le goût de Diderot, une exposition admirée au musée Fabre de Montpellier jusqu'au 12 janvier 2014.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le tri des déchets a fêté il y a peu ses 20 ans d'existence. L'occasion pour Eco-Emballage de faire le point, car le recyclage, ce n'est pas juste le fait de trier ses déchets. En effet, ce geste qui peut paraître anodin est pourtant une véritable économie circulaire. Selon Richard Quemin, responsable sud-est pour Eco-Emballage en Languedoc-Roussillon, cela représente près de 1100 emplois. Au micro de Maxime Triano de Radio FM+, il nous explique comment le recyclage est devenu une ressource économique.
Faut avoir en tête, ce sont de tout petits gestes de tri quotidien. Quand je mets ma bouteille dans mon bac, quand je mets mon pot en verre dans mon conteneur à verre. Mais derrière, ça va produire de grands effets collectifs. Imaginez, sur le Languedoc-Roussillon, c'est plus de 130 000 tonnes qui sont effectivement recyclées chaque année. Derrière, ça va alimenter une vraie économie du recyclage et notamment des emplois locaux. Le verre, par exemple, je citais tout à l'heure, il va partir dans des verreries juste à côté. Ça va créer de l'emploi localement. Ça va permettre à des bouteilles nouvelles d'être fabriquées à partir d'anciennes. Il faut savoir que dans une nouvelle bouteille, on met jusqu'à 90% d'anciennes. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a 20 ans, on a créé cette boucle du recyclage et désormais, c'est une vraie réalité. On est parti du tout jeter à maintenant à tout valoriser. On a créé de la vraie valeur environnementale, sociale et économique. Il y a 20 ans, quand on a commencé le tri des bouteilles plastiques, on cherchait des filières, on cherchait des débouchés. Aujourd'hui, on en a. Il faut savoir que la bouteille plastique, alors, va être réutilisée pour refaire de la bouteille plastique, contact alimentaire ou de lessive. On va en faire des bacs poubelles, on va en faire des arrosoirs, de la laine polaire. C'est incroyable le nombre de débouchés qu'on peut avoir. Et par exemple, les entreprises qui ont besoin de matière vont plutôt chercher de la matière recyclée, de la matière vierge. Donc, il y a une vraie économie qui s'est faite, une vraie économie circulaire. Aujourd'hui, on parle de crise économique. On a aussi parlé de croissance verte. Il y a le Grenelle de l'environnement, la conférence environnementale. On se dit, tiens, c'est un petit peu flou tout ça, c'est un petit peu vert, mais c'est une vraie réalité dans le domaine du recyclage et du geste quotidien des Français. En fait, mon petit geste de tri derrière va créer de l'emploi. Sur Languedoc-Roussillon, les 130 000 tonnes, c'est en gros 1100 emplois créés grâce à la collecte sélective et au tri quotidien de tous les habitants. Donc, c'est pas rien, hein. Ça va créer des postes d'ambassadeurs du tri, les gens qui vont venir à votre porte vous sensibiliser au geste de tri. C'est des gens à la collecte sélective, le camion que vous voyez passer devant chez vous. C'est des gens en centre de tri, parce qu'il faut imaginer que le contenu de votre bac va être trié dans les centres de tri. Et c'est des emplois créés dans les filières de recyclage, les verreries, les cartonneries, etc.
Ce numéro de Carnet de Région touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les radios qui y ont contribué. Et à la semaine prochaine.
Carnet de Région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.